Comment maîtriser l'art de la négociation?
C'est pour ça que j'aime beaucoup Rocard, il n'arrêtait pas de dire dans la négociation, envisager la négociation sur le temps long.
Cette semaine, je reçois Jean-Édouard Grézy, co-auteur d'un ouvrage que je vous recommande sur les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France. Dans cet épisode, nous allons découvrir les bases d'une négociation réussie et pour cela, voyager dans l'histoire et suivre les aventures de Louis XI, de Catherine de Médicis ou encore la rédaction du traité de Yalta ou des accords de Matignon. Si cet épisode vous plaît, notez-le sur votre application de podcast favori. Je vous laisse tout de suite avec mon invité.
Mon parcours pro, c'est quelques bifurcations, on va dire, puisque j'étais attiré par la médecine, mais pas très à l'aise avec tout ce qui relève du sang, etc. Du coup, j'ai essayé de développer un parcours qui alliait le droit et le commerce pour être administrateur judiciaire, pas liquidateur, celui qui est censé redresser les entreprises en difficulté. Et mon maître de stage à l'époque a détourné 30 millions d'euros. Donc, nouvelle bifurcation. Ce que j'avais vu ne me plaisait vraiment pas, évidemment. Et je suis, voilà, une rencontre lors d'un colloque sur la médiation qui m'a amené à développer un des premiers centres en France qui s'appelle Yvelines Médiation avec le barreau de Versailles, parce que le barreau de Versailles est jumelé avec le barreau de Québec. Voilà. Et puis, pour financer mon poste, j'ai fait une thèse et une convention CIFRE, ce qui m'a amené à découvrir l'anthropologie, qui est une discipline qui consiste à faire ce qu'on appelle une observation participative, c'est-à-dire faire partie d'une expérience que l'on essaye de décrire, comprendre. Donc, c'était parfait pour travailler sur ce champ. Voilà. Et du coup, de la médiation, je suis devenu aussi formateur en négociation jusqu'à créer mon cabinet avec Julien Oana, Ricardo Pérez-Niquel et Philippe Aymon, Alternego, en 2010, voilà, qui travaille sur toutes les thématiques RH, dialogue social, qualité de vie au travail, inclusion, avec des formations sur le management, le leadership. J'ai toujours été passionné par l'histoire et un petit peu choqué de voir que dans les manuels d'histoire, on parlait essentiellement des guerres, des batailles, des victoires, voire des accords obtenus à travers juste un rapport de force, donc des accords obtenus souvent au forceps. Et tout ce qui fait des paix durables, la capacité effectivement d'arranger les choses est un petit peu passé à l'as, si j'ose dire. Sans doute parce que c'est plus compliqué à comprendre, parce que ça se fait souvent en chambre, si j'ose dire. On n'a pas forcément les verbatims et la compréhension de la manière dont ça s'est fait. Et puis, du coup, il y a un peu une suspicion peut-être de dimension un peu de manipulation, un petit peu obscure, qui amène une certaine méfiance du sujet. Et je pense que c'est un peu dramatique parce que ça amène une vision quand même des relations entre États, une vision de la politique comme quelque chose où voilà, il y a plus d'honneur, j'ai envie de dire, à mourir droit dans ses bottes sur un cheval au combat plutôt qu'à de tenter en coulisses de trouver un terrain d'entente. Alors, c'est un livre que j'ai écrit avec Éric Ledelay, qui est passionné d'histoire et passionné de négociation comme moi. Et au début, on s'est dit qu'on va essayer de trouver déjà une dimension un peu paritaire, homme-femme. Et effectivement, alors, ce n'est pas toujours évident parce que autant il y a beaucoup de femmes qui ont été diplomates jusqu'à Louis XIV à peu près. Parce que déjà elles avaient un rôle qui était tout à fait reconnu dans ce domaine-là, et puis parce que pour sceller un accord de paix durable entre grandes puissances, il y avait quand même souvent un mariage à la clé, et donc il fallait l'implication évidemment de toutes les familles et de toutes les parties prenantes. Voilà. Donc, mais après, après Richelieu, c'est beaucoup plus difficile de trouver des des femmes, en tout cas dans l'histoire de France, qui ont pu contribuer à ce travail, puisqu'il y a eu un travail, enfin, comment dire, Richelieu, on le voit avec l'Académie française, a transformé aussi les noms, invisibilisé progressivement quand même certaines fonctions qui étaient dévolues autrefois aux femmes. Et effectivement, on retrouve des figures d'inspiration avec, alors on a parlé de Simone Veil, du coup, effectivement, et c'est dans une histoire plus récente, plus contemporaine, qu'on va retrouver effectivement des femmes dans l'histoire de France aux manettes, si j'ose dire, des négociations. Il y a plusieurs critères pour définir le succès d'une négociation. Et beaucoup enfin, un seul critère ne suffit pas. Par exemple, dire accord ou pas accord, évidemment, ça ne suffit pas. On pense aux accords de Munich, on pense au traité de Versailles. Ce ne sont pas des négos réussis. Donc, deuxième critère, est-ce que ça englobe toutes les parties prenantes ? Est-ce que toutes les parties prenantes ont eu leur mot à dire, ont pu satisfaire leurs intérêts ? Donc, effectivement, là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus précis. Est-ce que les besoins, les motivations, appelez ça comme vous voulez, de chacune des parties prenantes a été intégrée dans l'équation finale ? Est-ce que la négociation a permis de développer des options, c'est-à-dire des pistes de solutions créatives qui peuvent éventuellement créer de la valeur ? Est-ce que, aux yeux du monde, et ça, l'exemple des négociations de Talleyrand à Vienne sont assez extraordinaires de ce point de vue-là, est-ce qu'aux yeux du monde, enfin de l'Europe, du concert des nations, c'est un fair deal ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a trouvé des critères justes par rapport à la répartition des territoires, en l'espèce au Congrès de Vienne, qui font que la paix sera durable ? Est-ce que, enfin, au niveau de la qualité des relations issues des négociations, il y a du ressentiment ou, au contraire, une restauration de la confiance et une envie de pouvoir continuer à travailler ensemble ? Voilà, c'est à peu près tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et checker à l'issue d'une négociation pour s'assurer que l'accord est durable. Ce qui est amusant, c'est qu'on a raconté aussi des histoires de négociations avec des échecs. Parce qu'on apprend aussi beaucoup des échecs. Et ce qui est fascinant, c'est de voir aussi à quel point, quand on regarde au fil de l'histoire de France, à quel point nos rois, nos reines se référaient à l'histoire de France et aux succès et aux échecs de leurs prédécesseurs. Il y avait une vraie connaissance de cela. Donc, je vous donnerai un exemple. Par exemple, un dirigeant, et c'est toujours d'actualité, face à de forts enjeux, n'a pas intérêt à négocier en personne. Normalement, dans une négo, il envoie un mandataire, un représentant. Louis XI l'a vécu à ses dépens. Son plus grand ennemi, c'était Charles le Téméraire, qui était 5 fois plus riche, sur des terres 10 fois plus importantes. Et Charles le Téméraire se marie avec la fille d'Édouard IV. Et donc là, il se dit, en gros, je suis foutu. Il y a une pince là, qui est en train de se refermer sur moi. Et du coup, un peu en panique, il décide de se rendre à Péronne pour féliciter Charles le Téméraire pour son mariage et puis vérifier qu'il lui rend l'hommage lige en tant que suzerain. Et ça se passe très mal. Charles le Téméraire refuse, s'énerve. Je vous passe rapidement, il y a quelques péripéties à Liège, etc. Et il prend Louis XI, il le jette en prison et il veut le tuer. Et donc, voilà, il va s'en sortir par une adresse assez exceptionnelle en retournant son chambellan Comines, hein, qu'il va débaucher par la suite, en voyant déjà qu'à l'époque, Comines vit une forme de harcèlement moral, on dirait aujourd'hui, parce que Charles le Téméraire a quand même tous les traits d'un pervers narcissique, et en lui montrant l'intérêt supérieur de la France, mais aussi l'intérêt qu'il aurait à profiter de lui plutôt que de le tuer, parce que tuer un roi, c'est commettre un régicide, c'est prendre le risque d'être excommunié par le Vatican à l'époque, et donc ça pourrait obérer un petit peu les projets de Charles le Téméraire. Donc il va s'en sortir, mais par la suite, plus jamais il ne reproduira cette erreur, et peu de rois reproduiront cette erreur. Il choisira d'ailleurs comme mandataire souvent son barbier, et quand on lui disait « mais pourquoi votre barbier ?», il disait « en qui puis-je avoir plus confiance que celui qui me passe la lame sur le cou ?» Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir dans une négo, effectivement, cette dimension effectivement, d'un mandataire en qui on peut avoir cette confiance en sachant qu'il y a toujours une tension entre ses intérêts à lui et ses intérêts à nous, et qu'il va falloir aligner le mandat par rapport à tout cela. Oui, c'est ce qui a fait le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi des négociations one-shot, on a choisi des personnages qui ont négocié toute leur vie. Et la personnalité peut-être effectivement la plus bluffante de ce point de vue-là, c'est Catherine de Médicis, qui a géré quand même 8 guerres de religion, qui a négocié toute sa vie. Alors, on lui a collé la Saint-Barthélemy. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces personnages ont eu une légende noire, que ce soit Louis XI, l'invisible à règne, l'araignée, Catherine de Médicis, la serpente, Mazarin, le vautour, Talleyrand, la merde dans une batte soie. C'est-à-dire, au XIXe siècle, on les a tous affublés de sobriquets et avec des légendes noires complètement à la fois romantiques et puis complètement fantasmées. Et donc, c'est intéressant de les redécouvrir à l'aune des faits. Et aujourd'hui, les historiens contemporains remettent quand même beaucoup en question cette histoire de la Saint-Barthélemy, parce que quand on regarde son parcours de vie, elle n'a eu de cesse d'arranger les choses entre catholiques et protestants, et même jusqu'à la fin de sa vie, elle finit d'ailleurs sur un brancard à bout de force pour aller continuer à négocier et tenter d'éviter une insurrection, par exemple, à Paris, qui pourrait destituer son troisième fils, Henri III. Donc, une énergie incroyable, une capacité aussi à aller auprès de ses sujets, à faire des tours dans tout le royaume de France pour essayer d'apaiser, d'apaiser un peu les souffrances, refermer les plaies. Et puis, une clairvoyance aussi, puisque c'est elle quand même qui va développer à la fois une notion qui est toujours d'actualité, à savoir la liberté de culte va être encadrée progressivement et elle sera consacrée effectivement dans l'édit de Nantes, mais la liberté de conscience, hein, c'est elle qui va développer ça dès le début de son règne, et elle va réussir à sauver quelque part ses fils progressivement. Sachant qu'elle va vivre une situation complètement dingue, puisqu'elle perd son mari Henri II, elle perd son premier fils, son deuxième fils. Elle n'assistera pas au meurtre de son troisième fils, mais elle va réussir à tenir quand même la royauté. Beaucoup de ses contemporains étaient complètement admiratifs, et au premier chef, Henri IV, qui épousera sa fille, la fameuse reine Margot. Ça, c'est aussi une leçon de négociation à la décharge de Roosevelt. Il est malade, il est au bout de sa vie, il est épuisé. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de succès en négociation sans préparation. On lui a donné, toutes ses équipes lui ont donné tous les éléments de préparation. Il ne va même pas les lire dans son voyage qu'il amène à Yalta, alors qu'il a le temps. Il va plutôt s'occuper de sa collection de timbres. Et c'est un peu un joueur de poker qui rencontre un joueur d'échecs. Et, c'est-à-dire qu'il pense que... Il pense en gros que Staline est un gars sympathique et que tous les deux ont lutté contre Hitler, l'effroyable nazi, et que ça devrait bien se passer en créant une bonne relation, une bonne entente et un petit peu d'esbrouf. Alors que Staline est un joueur d'échecs très manipulateur, hyper organisé, et forcément ça ne va pas bien se passer parce que lui, il a bien préparé le jeu. Et c'est là qu'on voit que, alors que Roosevelt arrive dans un rapport de force qui lui est favorable, le rapport de force se renverse parce que Staline est mieux préparé que Roosevelt. Et donc, la préparation, c'est un pouvoir considérable dans la négociation. C'est vrai que Churchill, déjà, il a été écœuré, on le suppose, on le lit à travers les lignes, lors de sa rencontre avec Roosevelt à Casablanca, parce que... bien avant, il y avait cette question qui devait être traitée à l'agenda. Est-ce qu'on soutient l'opposition au régime nazi, les Allemands qui s'opposaient au régime nazi? Et la question n'est pas tranchée. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à en débattre. Et il y a une conférence de presse. Et contre toute attente et sans en avertir Churchill, sans son accord, Roosevelt part dans une envolée en disant « il n'y aura aucune négociation possible, nous détruirons l'appareil nazi ». Et du coup, certains historiens considèrent qu'on a perdu peut-être un an, puisqu'on aurait pu faire tomber plus rapidement le régime nazi, et un an, c'est peut-être, c'est difficile à évaluer, mais c'est peut-être 2 millions de morts. Donc, c'est ce type de décision prise à l'emporte-pièce, sans discussion, sans concertation, sans préparation, ont des conséquences dans le contexte, évidemment, extrêmement lourdes. Alors, c'est facile de refaire l'histoire a posteriori, hein, parce que Roosevelt a commis de très belles choses il est quand même à l'origine aussi du débarquement et on lui est extrêmement redevable de nous avoir libérés. Mais il y a aussi, par moment, fort de ses succès, fort de son engagement, des étapes d'après sont un peu bâclées et ça a des lourdes conséquences pour ceux qui vivent dans ces territoires qui ont été répartis, par exemple, à Yalta. On considère qu'en négociation, ce qu'on appelle les 3P, il y a une dimension liée aux personnes, c'est-à-dire à la relation qu'on noue avec l'autre, avec une dimension qui peut être aussi assez émotionnelle. C'est une dimension qui peut être très positive, c'est-à-dire j'ai plutôt envie de négocier avec vous parce qu'on l'a déjà fait par le passé, parce que j'ai confiance, etc. Ou au contraire, on est dans du conflit, donc j'ai pas envie de négocier avec vous, je me méfie, etc. Donc, cette dimension-là, il faut la traiter, sachant que bien souvent, il y a aussi plusieurs personnes, donc ça peut être d'une grande complexité. Il y a la dimension des problèmes, c'est-à-dire des intérêts en jeu. Arriver à définir quels sont les besoins de son interlocuteur, sur le plan théorique, c'est facile, sur le plan pratico-pratique, ce n'est pas toujours évident, d'accord ? Au-delà de ce qu'il demande, ce dont il a besoin, quels sont les intérêts en jeu, quelles sont les options pour créer de la valeur, les critères pour légitimer la valeur créée, la répartition de cette valeur. Donc, il y a des problèmes de fond à traiter. Et puis, troisième élément, qui est celui sur lequel, effectivement, on insiste le plus, parce que c'est là où il s'agit d'élargir son répertoire de réponses, c'est le processus, c'est-à-dire la méthode que l'on emploie. Qui on met autour de la table, où est-ce qu'on se voit, quel est l'ordre du jour, combien de temps on se donne, comment on démarre. C'est tous ces sujets-là qui sont interreliés. Hein, donc et sur ces trois dimensions, il n'y a qu'une dimension que l'on peut externaliser, c'est le process. C'est pour ça qu'on dit qu'une médiation, c'est une négociation facilitée par un tiers, d'où le fait qu'on en ait parlé, évidemment, parce que ça donne aussi des clés de lecture en tant que tiers sur comment mener une négociation entre des acteurs qui n'y parviennent plus. Voilà. Et comment être, parfois, dans une situation complexe, son propre médiateur, si j'ose dire, en prenant suffisamment de recul et en essayant d'être tiers par rapport à une situation de tension difficile à gérer. Oui, alors effectivement, c'est même un récit qui a donné lieu à une bande dessinée. Pour le coup, c'est un récit pour lequel j'ai eu accès aux acteurs qui ont réalisé sur place en Nouvelle-Calédonie, donc Christian Blanc, Christian Cosard, Pierre Steinmetz notamment, qui ont réalisé effectivement cette capacité à faire venir Kanak et Caldoche à Matignon pour négocier. Et ce récit est extraordinaire. Michel Rocard a eu une intuition géniale. Il a conscience que dans un conflit de forte intensité comme celui qui existe en 1988 en Nouvelle-Calédonie suite à l'affaire des otages de la grotte d'Ouvéa où la France avait donné l'assaut, Jacques Chirac et François Mitterrand avaient de concert décidé de donner l'assaut, ce qui avait provoqué 19 morts, donc une situation kanak endeuillée, 4 gendarmes aussi avaient été morts, 2 militaires dans cette histoire, donc une situation, du coup, on est au bord de la guerre civile et Michel Rocard se dit, la France a perdu une partie de sa crédibilité vis-à-vis de la communauté kanak, dans un conflit d'une telle intensité, le problème, ce n'est pas tant la négociation que de faire venir les acteurs à la table des discussions. C'est extrêmement contemporain. Hein. Le problème, ce n'est pas la négociation entre Israéliens et Palestiniens, c'est de les faire asseoir à une même table. Entre Hutu et Tutsi, c'est de les faire asseoir à une même table. C'est pareil dans tous les conflits à forte intensité. Et donc, il cartographie les acteurs. Côté Caldoche, c'est Jacques Lafleur qui est leader du RPCR. C'est un protestant, c'est un franc-maçon, un grand chef d'entreprise. Il possède des mines de nickel. Côté Kanak, Jean-Marie Djibaou, c'est un ancien curé, anthropologue, voilà. Et il se dit, bah, je vais envoyer l'église, le représentant de l'église protestante, le représentant de l'église catholique, le représentant de la loge maçonnique qui va bien vis-à-vis de la fleur, et puis un préfet plutôt rocardien, Christian Blanc, et il demande à Raymond Barre, qui est le leader de l'opposition à l'époque, aussi un préfet, on va dire barriste, pour que la mission ne soit pas instrumentalisée politiquement. Et puis aussi un général de gendarmerie pour gérer aussi les forces en présence sur place. Et c'est ce qu'ils ont appelé la mission du dialogue qui va aller sur place et littéralement, à travers énormément de rencontres, créer la légitimité et les conditions qui permettront à Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou de venir à Matignon en présence de Michel Rocard négocier des accords de paix. Et c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter parce que c'est un modèle du genre. C'est juste avant les négociations en Afrique du Sud entre De Klerk et Mandela. Et ça reste un modèle vraiment qu'on utilise aussi en médiation au quotidien, très inspirant, parce que c'est pareil dans les entreprises, c'est pareil dans les familles. Passer un certain cap d'intensité conflictuelle, les gens ont peur de leur agressivité, les gens ont peur de se rencontrer, ne veulent plus se voir et préfèrent déléguer à des tiers tels que des juges ou dans des rapports de force un petit peu figés le fait de trouver une solution plutôt que de prendre la responsabilité par eux-mêmes de le faire. Je peux raconter côté Kanak ce qui s'est fait, c'est assez extraordinaire. D'abord, Jean-Marie Djibaou, lui, est recherché parce qu'à l'époque, les FLNKS considéré comme un mouvement terroriste, d'une certaine manière, dans les représentations collectives côté Caldoche et puis en métropole. Et donc, n'arrivant pas à le joindre, il décide, donc la mission du dialogue décide de se rendre symboliquement dans l'île d'Ouvéa. Et là, ils font un vrai travail d'écoute assez extraordinaire au sein des tribus. Donc, quand vous arrivez dans une tribu Kanak, il faut respecter la coutume, qui est une très belle coutume. On échange des tissus qui symbolisent les liens que l'on veut tisser justement avec les personnes que l'on rencontre. Et puis, ils écoutent. Il y a eu des fouilles à corps, des humiliations, etc. Assez naturellement, ils se trouvent sur les tombes des preneurs d'otages Kanak à la sortie de cette communauté qu'ils ont visitée. Donc, ils se recueillent sur les tombes. Ils se recueillent évidemment aussi sur les tombes du coup des gendarmes qui avaient été tués lors de ces événements. Et puis, avant de partir, ils avaient réquisitionné un vieux bus scolaire parce qu'il n'y avait pas de moyen de transport sur place. Ils montent dans le bus pour repartir. Ils sont déjà bien épuisés, vous imaginez. Et il y a le chauffeur de Car qui lui dit, qui leur dit, vous n'allez pas à Gossana. Gossana, qui est la tribu dont sont issus les preneurs d'otages. Et là, ils disent, bah non, c'est pas prévu, et puis c'est bon, on est en retard, etc. Et le chauffeur de Car dit, ah bon. Et ce qui est incroyable, c'est que Christian Cozard, donc, qui fait partie de cette mission, raconte que dans ce ah bon, il entend, on est en train de faire une énorme boulette, il faut absolument y aller. Et il arrive à convaincre tout le monde de se rendre à Gossana. Et là, vous imaginez, dans une tribu Kanak, quand vous avez 19 morts jeunes, hommes, bah vous vous retrouvez face à des veuves, et des anciens et des enfants. Il n'y a quasiment plus d'hommes jeunes. Ils ont été décimés. Là, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Vous imaginez la scène. Et ils ont tellement d'empathie et de capacité de... Voilà, d'écoute et de sincérité aussi dans leur démarche, que ça passe, le courant passe, si j'ose dire, et à tel point qu'à la fin de leur rencontre, vous savez, une veuve qui va remettre même son bébé dans les bras de Christian Blanc pour symboliser un peu que, quelque part, qu'elle lui remet l'avenir un peu de son enfant. Et effectivement, le lendemain, vous avez Jean-Marie Djibaou qui appelle Christian Blanc en disant « Je vous ai vu à Gossana ». C'est bien ce que vous avez fait, j'accepte de vous rencontrer. C'est ce qu'on appelle aussi, en négociation, passer dans son camp. Ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut dire être capable de comprendre ce que l'autre ressent, ce dont il a besoin, comment il vit les choses, et à partir de là, de créer le lien qui permet de construire plus loin. C'est encore une fois, on ne va pas refaire l'histoire parce qu'on imagine bien que quand vous avez des millions de morts, que vous avez vécu dans les tranchées, que vos propriétés sont détruites, Renoncer à la haine, renoncer à la vengeance, c'est extrêmement difficile. Certains l'ont fait. Hein. Djibaou, il a ses deux frères qui sont tués dans un attentat. Il devait être dans les voitures avec eux. Toute sa communauté est en émoi. Beaucoup appellent à la vengeance. Et lui, il appelle au pardon, quoi, presque le jour J. Donc, il faut quand même une... Et Catherine de Médicis a fait beaucoup de travail là-dessus. Enfin, donc, il faut une... C'est comme Nelson Mandela. Il sort de prison après 27 ans et on lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec vos adversaires? Il dit, je ne les emmène pas avec moi. Je suis libre. D'accord. Pardonner, c'est renoncer à la haine, étymologiquement. C'est renoncer à la vengeance. Ça ne veut pas dire renoncer à ses intérêts. Ça veut dire... envisager le futur sur le temps long. C'est pour ça que j'aime beaucoup Rocard, il n'arrêtait pas de dire dans la négociation, envisager la négociation sur le temps long. Pas, c'est pas du one shot, c'est pas se rembourser nos maisons dans un an. C'est comment est-ce que l'Europe peut continuer à vivre. On a déjà eu une guerre en 70, on a fait la deuxième en 14, on va se taper la troisième en 39-45, parce qu'à aucun moment, eh bien, on a quelqu'un qui sort la tête un peu qui est au-dessus de la mêlée pour voir sur un temps plus long, ce qui veut dire une réconciliation des peuples, ce qui veut dire un renoncement à la haine et ne pas humilier son adversaire. Or, il y a eu à chaque fois volonté d'humilier l'adversaire en le faisant signer exactement dans le même endroit que là où il avait été humilié précédemment. Donc, c'est une succession de vengeances qui n'en finit plus puisqu'on arrive effectivement à une amplification et une guerre de tous contre tous qui est terrifiante. Et après, il faut saluer tout le travail qui a été fait parce qu'on a fini par comprendre après 39-45 sur la réconciliation franco-allemande qui est exceptionnelle après. Mais ça a mis quand même de 1870 à 1945 avant de se faire. La négociation, ce n'est pas réservé aux spécialistes. Quand on étudie un peu le sujet, par exemple, quelqu'un qui a des fonctions managériales d'équipe ou de projet passe près de 75 à 80% de son temps à négocier. Si on entend la négociation comme un système de décision conjointe, c'est-à-dire que toute décision qui pourrait être prise nécessite l'assentiment de l'autre. Et donc, j'aime bien l'idée qui avait été développée à Québec. Ils avaient lancé un programme qui a touché 200 000 jeunes qui s'appelle Ensemble vers le Pacifique, où on enseigne la négociation aux enfants. Parce que ils auront, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils naissent, ils ont à négocier avec leurs parents, avec leurs collègues, avec leurs instituts, puis avec leurs employeurs, toutes les parties prenantes dans leur couple, non-stop. Et plus on est... formé, plus on est capable d'élargir son répertoire de réponses dans des situations qui peuvent être plus ou moins complexes, plus on a discernement sur ce sujet, plus on a de chances dans la vie d'avoir de belles relations et des opportunités aussi de création de richesses à tout point de vue.
Merci à Jean-Edouard d'avoir accepté mon invitation et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.